Mais d'abord, on retrouve avec quelques minutes de retard votre invité, Anthony Lattier. Vous recevez ce matin Gilles Platret, vice-président et porte-parole des Républicains.
Bonjour Gilles Platret.
Bonjour.
Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, est donc intervenu à la télévision hier soir pour faire une série d'annonces face à la progression du variant Delta. Les soignants seront obligés de se faire vacciner. L'usage du pass sanitaire est très largement élargi. Et les tests PCR aussi seront rendus payants. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de frapper fort ?
On était, nous les Républicains, favorables à la vaccination obligatoire pour les soignants. Mais cela dit, j'ai été frappé non seulement du ton qu'a employé le président de la République, mais également celui de Monsieur Véran tout de suite après. Ministre de la Santé, les menaçant pratiquement de démission d'office. S'il n'y souscrivait pas. Moi, je voudrais simplement rappeler une chose. On ne peut pas traiter à la schlag le peuple français. Et voir, alors que ces soignants, on les a envoyés au front sans aucune protection, si les collectivités locales n'avaient pas été là pour fournir des masques au début de l'épidémie, c'est pas l'État qui le faisait. Donc on les a envoyés se faire contaminer, et là on est en train de les ostraciser. Donc nous sommes favorables à l'obligation,
donc c'est mais le certainement pas dans la mesure,
mais pas
mesure,
dans le mépris. D'accord. Mais Monsieur Véran parle, mais comme s'il il traitait les gens vraiment avec non pas de la condescendance, mais même de la violence dans le propos. On peut peut-être quand même imaginer que derrière un soignant, il peut aussi y avoir quelqu'un qui doute. En plus, il est proche de la science. Donc, c'est intéressant quand même de les écouter. Donc, je redis que les Républicains sont favorables à l'obligation les concernant. Pour autant, on ne peut pas les traiter avec le mépris qu'on a entendu hier soir.
Vous pensez que certains vont démissionner ?
Eh ben, écoutez, j'en sais rien, mais ça serait quand même bien les mal payer. Alors qu'ils ont fait tout leur possible sans aucun moyen au début de la crise, que de leur dire maintenant, vous dégagez parce que vous voulez pas vous faire vacciner. Encore une fois, on a choisi, et c'est vraiment le biais de ce gouvernement et du président de la République, de basculer dans un régime de la peur. Voilà. Hier, la déclaration du président de la République est une déclaration de peur. Et c'est très clair. Tout dans le style, dans le froncement de sourcils, dans le ton employé, c'est la peur. Donc on gouverne par la peur. Moi, je demande simplement qu'on gouverne un peu avec le respect. Ça fait pas de mal non plus.
Il faudra être vacciné ou avoir un test négatif donc pour aller au restaurant, au café, dans un centre commercial, pour voyager, pour beaucoup de choses. En fait, n'est-ce pas une obligation vaccinale déguisée ?
Vous avez totalement raison. C'est une façon assez lâche d'ailleurs de dire si vous ne vous faites pas vacciner, on va vous en tenter plus. Très honnêtement, je pense que là pour le coup, le président aurait dû au moins avoir le courage de dire les choses. Alors évidemment,
c'est-à-dire le courage de dire on vaccine obligatoirement tout le monde.
Oui, bien sûr. Mais vous savez pourquoi il l'a pas dit ? Tout simplement parce qu'il y a 6 mois, il a dit le contraire. Il y a 6 mois, en s'adressant aux Français, c'était en décembre, il a dit qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. Or là, il la mène dans les faits, sans la rendre sur le papier, parce que ça le gênerait. Alors les Républicains se réunissent autour de Christian Jacob en équipe dirigeante à la mi-journée, le patron du parti en équipe dirigeante à la mi-journée. Donc on verra un petit peu la position qu'on adopte. Jusqu'à présent, nous étions favorables à la non-obligation. Ça, c'est très clair. La liberté devait être préservée. Je crois que nous serons un certain nombre à continuer à défendre cette ligne. Moi, ce qui me choque particulièrement dans ce qui a été dit hier soir, c'est que l'extension tout azimut du pass sanitaire posera quand même un certain nombre de problèmes politiques, juridiques et même constitutionnels. Quand on entend le président, pour aller faire ses courses, c'est-à-dire pour aller chercher à manger, il faudra un pass sanitaire. Moi, ça me choque profondément. Je pense que ça posera aussi un problème au Conseil constitutionnel, puisque vous savez que ça doit passer par une loi qui sera présentée au Conseil des ministres le 19 juillet, qui sera débattue à partir du 21 juillet au Parlement. Donc il y aura les débats parlementaires, il y aura très vraisemblablement une saisine du Conseil constitutionnel. Pour moi, ça constitue une rupture de l'égalité, du principe d'égalité
entre ceux qui sont
devant la loi.
Exactement. Ceux qui ne sont pas
vaccinés. Donc je pense qu'on va aller quand même sur un débat de fond. Est-ce qu'on peut restreindre à ce point les libertés publiques et l'égalité républicaine dans ce pays ? Je pense que c'est un des enjeux de la déclaration d'hier soir.
Des problèmes juridiques, constitutionnels, politiques, mais aussi pratiques. Comment les quartiers, les personnes de restaurants, les employés vont pouvoir faire appliquer eux-mêmes le contrôle de ce pass sanitaire ?
Écoutez, j'ai discuté hier avec des amis brasseurs, cafetiers, restaurateurs, mais qui disent on n'est pas des flics. Comment est-ce qu'on va aller demander sur nos terrasses à quelqu'un qui passe dans la rue, qui s'assied à une table, si son pass est à jour ? C'est un vrai problème de droit. Moi, je dois organiser dans quelques jours un festival des arts de la rue dans ma ville à Chalon-sur-Saône en Bourgogne. Eh bien, je ne sais pas aujourd'hui, puisqu'on a annoncé à partir du 21, c'est le jour où le festival doit commencer, je ne sais pas juridiquement comment je vais pouvoir demander aux salariés de la structure qui porte le festival de contrôler des données de santé qui sont par définition confidentielles. Et je pense qu'on va d'ailleurs saisir le procureur de la République pour avoir un éclairage juridique sur la question. Donc on voit bien une nouvelle fois que le président jette en pâture à l'opinion pour faire de la communication un des éléments qui sont juridiquement, à mon avis, très instables. Donc il va falloir une vérification. Et comme d'habitude, c'est sur le terrain qu'on va avoir à gérer les problèmes.
Deuxième volet de son intervention, Gilles Platret, Emmanuel Macron a évoqué les priorités de la fin de son mandat et notamment la réforme des retraites. Il a dit oui, mais pas tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle. Alors, est-ce que c'est une façon de l'enterrer, d'après vous ?
J'ai écouté cette fin de discours où d'ailleurs la question démocratique et du désintérêt de nos concitoyens pour les élections, on l'a vu pour les départementales et régionales, a été évacuée en un bout de phrase. S'agissant des retraites, écoutez, c'est la meilleure façon de dire qu'il ne fera pas la réforme. Puisque il
vous
a
le regrettez
cas... Non, mais il a eu. Alors oui, nous le regrettons. Mais surtout, faut se placer maintenant dans un contexte présidentiel. On peut quand même pas faire l'offense au président de la République qu'il aurait oublié le calendrier de l'année prochaine. Donc il est en train d'agiter des thèmes qui sont des thèmes de droite, très clairement. Hein, le travail qui doit plus récompenser que l'inactivité, etc. La réforme des retraites. Quand il dit la réforme des retraites, on la fera après l'épidémie, il sait très bien qu'on sera pas sorti de l'épidémie à la fin de l'année. C'est pas la peine de se raconter des histoires. On a des retours épidémiques, on a des variants. C'est une illusion de croire qu'on en sera sorti à la fin de l'année. Il le sait très bien. Donc en fait, il vient d'enterrer en direct la réforme des retraites en disant, vous voyez, j'ai quand même eu envie de la faire jusqu'au bout. Donc ça, c'est de la tromperie. Ça ne trompera que ceux qui veulent y croire. Mais la réforme des retraites n'aura pas lieu avec Emmanuel Macron. Il faudra donc qu'on la pose dans le débat présidentiel et que notre famille politique et notre candidat soient en mesure de la défendre et de la porter et surtout de l'appliquer dès le début du quinquennat suivant.
Mais sur le fond, vous êtes d'accord, supprimer les régimes spéciaux, changer notre système, travailler plus longtemps ?
Vous savez, les Français préfèrent peut-être l'original à la copie, ça fait longtemps qu'on le demande. On ne peut pas nous faire grief aux Républicains de ne pas avoir demandé ce changement. C'est un changement qui est imposé par l'évolution de la démographie. Il faut regarder les choses en face, il faut que les choses se passent d'une manière la plus concertée qui soit, notamment avec les organisations syndicales, qui seront sans doute opposées par principe, mais qui ont sans doute aussi des choses à négocier, à mettre sur la table des négociations. Il faut toujours les écouter. Et à partir de là, il faut engager cette réforme. Mais je vous le dis ce matin, Emmanuel Macron n'aura pas l'occasion de l'engager avant la fin de son quinquennat. Tout le reste, c'est de la littérature.
Autres annonces, un revenu d'engagement pour les jeunes, un plan pour l'autonomie, la réindustrialisation de la France. Rapidement, pour vous, cette feuille de route est-elle raisonnable dans les délais impartis ?
Je pense qu'il fera le revenu universel pour les jeunes. C'est la seule chose qu'il va essayer de faire par électoralisme avant les élections. Vous le verrez. Pour le reste, il n'aura pas le temps. On ne va pas réindustrialiser la France en 6 mois, c'est complètement illusoire. Que l'objectif soit partagé, bien évidemment, mais tout ça, c'est une collection de vœux pieux. Donc, on verra sur les actes, mais nous savons d'ores et déjà que l'avenir ne s'écrit plus maintenant, il s'écrit à partir du mois de mai de l'année prochaine.
Merci Gilles Platret.
Merci à vous.